Compagnon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour, ou de vous donner envie de lire d'autres écrits du même auteur d'ailleurs. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali ou Catherine. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce sera Catherine. Bonjour à toutes les deux.
Non,
c'est plutôt Magali. En fait.
C'est
Qu'est-ce
Magali.
Que j'ai dit? Ah oui, j'ai dit... J'ai dit Catherine en pensant Magali, mais c'est pas grave.
Ah bah d'accord,
c'est pas très grave.
Écoute.
C'est pas très grave, hein. De toute façon, on est toutes les deux, c'est un travail d'équipe.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est quand même Magali qui a fait le travail.
Oui.
Oui.
Il faut voilà. le dire.
Le voilà. difficile travail de choix des extraits à lire.
Et tout voilà,
on en
c'est un vrai casse-tête.
Exactement. Voilà.
Bien, donc il s'agit de notre premier roman de l'année 2026. Hein. Et donc par ce froid d'hiver, vous avez décidé de nous amener un petit peu de soleil.
Wow. Exactement. Donc avec un livre dont on parle énormément en ce moment, qui est un véritable carton, vendu déjà à plus de 35 000 exemplaires, ce qui est une prouesse, parce qu'en fait il s'agit d'un premier roman, et écrit par Mathilda Di Matteo, une jeune autrice de 30 ans. Alors c'est un roman très surprenant, touchant, qui ne laisse pas indifférent, d'où certainement le succès. Il s'agit de La Bonne Mère.
Oh,
on peut pas s'empêcher. On peut pas s'empêcher. Tout de suite, on a du soleil. Hein.
Et tout de suite, on pense Marseille, bien sûr.
Et en grande partie, oui. En fait, les deux personnages principaux sont Véro et Clara, qui sont mère et fille. 800 kilomètres les séparent car Clara s'est installée à Paris pour ses études et revient de temps en temps dans sa ville natale.
Elle a trahi donc.
Voilà, elle a trahi, elle est allée là-bas dans le nord. Donc on fait des allers-retours entre les deux villes. Sont présents aussi le père de Clara, surnommé le Napolitain, et Raphaël, le petit ami de Clara.
Très bien, bah écoutez, ça nous met l'eau à la bouche. Je propose qu'on commence par un premier extrait.
Eh bien c'est parti.
Allez.
Je me doutais bien, avec sa grande école et ses grands airs, qu'elle allait nous ramener un petit Parisien. Elle me sort. Il n'est pas de Paris, maman, mais de banlieue parisienne. Censément, c'est important comme distinction. Enfin, pas besoin de connaître son adresse pour voir à des kilomètres que c'est un petit con. Je l'appelle le girafon. Dans son dos, bien sûr. Son grand dos tout fin, son long cou de girafe. Un coup à égorger, vraiment. Pas que j'y pense. En tout cas, pas encore, mais c'est pour dire la taille du cou. Et puis cet air. À croire qu'il est en safari, partout où il bouge lentement sa grande tige. Comme s'il avait peur de marcher sur une bombe ou sur une bouse de paysan. J'ai toujours su que Paris, c'était le début de la fin. Ça fait quoi ? 5 ans qu'elle nous a quittés ? Avant ça, des années à nous tanner. Et Paris par-ci, Paris par-là, comme si Marseille n'était pas assez bien pour elle. Pas assez grande. À se faire des films, vouloir faire sa grande dame sur les Champs-Élysées, ou va savoir où, tant que c'est propre et cher. Et puis surtout, intellectuel. J'ai eu beau lui dire, tu sais qu'à Paris, il y a les Parisiens. Justement, elle m'a fait la minote. Justement, faites des gosses. La mienne est partie toute seule, avec ses deux grosses valises. J'ai quand même négocié à Saint-Charles pour qu'on puisse l'amener jusqu'au train. Regardez, monsieur le contrôleur, ces sacs, ils sont plus gros qu'elle, peu cher. Le Napolitain a râlé, comme d'habitude. Pourquoi tu le dragues, ce gros PD ? Je lui ai lancé le regard noir, même si je crois que la petite a rien entendu. Il a tracé, le con, en portant les deux valises comme une mule qui va à l'abattoir. Et puis il l'a serré, sa fille. On aurait dit qu'elle lui arrachait un membre. Après, c'était le tour du chien de dire au revoir. Un drame. La mioche a pleuré. Il lui a léché le visage. Il a fallu s'y mettre à deux pour le sortir du wagon, le canin. Moi, j'ai eu droit à un vague « Bisous, maman ». Puis, c'était plié. Elle était assise dans le carré famille, mais sans famille, justement, bien contente de se tirer. Et nous, comme deux abrutis sur le quai de la gare, à faire des coucous et des cœurs avec nos mains, en retenant l'envie de chialer. Donc, elle nous quitte. Puis elle attend qu'on s'en remette, qu'on s'habitue à plus être comme des drogués à l'attendre, notre messie, son retour, du bruit dans la maison, enfin, de l'amour. Et là, coup de grâce, ça nous ramène le girafon. 1,90 m de cul pincé, blanc comme un cul, d'ailleurs, comme un bon parisien. La chemise rentrée dans le pantalon, tout droit, tout repassé, rien qui dépasse. Alors, elle demande « Il n'est pas formidable ?» Le Napolitain se fend d'imprudent. « Il est très bien élevé. » Il allait surtout pas la contrarier, sa gamine. Elle te la regardait, puante d'espoir. Lui, bien sûr, il était jaloux comme un pou, remplacé. Mais bon, très bien élevé, en hochant la tête, avec le sourire crispé. Elle a tourné les yeux vers moi. Je voyais pas quelle autre platitude sortir, alors j'ai lâché un truc du genre « Il avait l'air un peu gêné, non ?» Pauvre de moi, j'en ai pris pour mon grade, et que je suis jamais contente, et que j'aurai jamais été satisfaite de quelqu'un de pas d'ici, que depuis qu'elle est partie, je la déteste. Voilà, c'est ça. Je lui en veux. Je lui fais payer son ambition. Et l'autre, qui a fait tellement d'efforts, tellement, pour essayer de me parler, il s'est même intéressé à mon métier. Et il m'a raconté aussi, pour son théâtre, ses sketchs, et j'ai pas bronché. Puis son job dans un ministère. Franchement, j'aurais pas pu dire que c'était bien avec ce qu'il est doué. Puis, gentil, accommodant et bien élevé. Ça fait un moment qu'elle s'est mise dans la tête que je lui en veux. Tu parles, c'est elle qui nous en veut. D'être nous, de l'avoir enfantée. Quand elle est là-bas à Paris, elle nous répond une fois sur trois. Et quand elle est ici, c'est pire. Cette distance, vas-y qu'elle souffle, qu'elle te met ses yeux en l'air, qu'elle se mord la lèvre pour pas nous corriger la grammaire. Elle veut même plus regarder la télé parce que c'est en français. C'est si mal doublé, maman, je sais pas comment tu fais. Comment tu fais ? Dit d'un air dégoûté. On la dégoûte, voilà, ça y est. Faut pas croire qu'elle ait attendu de partir pour avoir honte de nous, enfin, de moi. Le pire de tout, c'était les réunions parents-prof. Le Napolitain me les laissait. J'étais beaucoup plus sociable, censément. Sauf que la petite, elle n'était pas d'accord. Elle dormait pas de deux nuits avant, comme une ultra avant le classico. Tu comprends, maman ? Les profs, c'était important pour elle. Fallait pas que je me fasse remarquer, comme d'habitude. Que je fasse mon cinéma. Avant de partir, elle inspectait ma tenue, mon maquillage. Si j'avais pas mis trop de parfum. Et puis, elle faisait la liste. Pas de gros mots, maman. Petit sourire, et pas d'allusion sexuelle. Je roulais des yeux comme elle sait si bien faire. Ramène pas trop la conversation vers toi, s'il te plaît. Bien sûr, chérie, on parle toujours de toi, tu sais. Et ne demande pas si on peut fumer. On ne peut pas fumer à l'intérieur. J'ai pas fait ça depuis 1999, mon cœur. Et maman, s'il te plaît, fais attention aux Français. Je vais parler d'un châtier, ils vont avoir besoin du dictionnaire pour me comprendre, tu verras, ma gâtée. Chaque fois, j'arrivais au truc. J'avais déjà tout oublié. Je reconnaissais 2-3 parents et je leur faisais mon sourire de constipé. Je les sentais, les regards. En plus, j'ai toujours détesté les profs. Ça date de la primaire. La médiocrité de la grammaire de Véronique n'a d'égal que les nuisances sonores que causent ses incessants bavardages. Ce commentaire sur le bulletin m'avait valu une bonne grosse claque de la mienne de mère. À l'époque, on ne faisait pas les tests pour la dyslexie et tous les autres 10 que je ne me rappelle pas. Avant que la petite rentre en maternelle, j'ai demandé au pédiatre s'il pouvait la tester pour ça, parce que les profs, quand ils sont mauvais, ça te marque. Je ne voulais pas qu'elle soit comme moi, à en baver pour faire le minimum. À faire des trucs comme devenir secrétaire, juste pour prouver le contraire à Madame Michel, la maîtresse de CE1. Dans un asile de fous, d'accord, mais secrétaire quand même. Enfin, plantée au milieu de la salle, je voyais tous ces profs coincés, encravatés, la moitié qui me reluquaient. J'avais la boule au ventre comme si c'était moi qui avais merdé. L'envie de lui crier « J'ai rien fait, je te jure chérie, j'ai même pas mis le jupe ». Mais c'est comme ça avec les gens. Ils te mettent dans des cases. J'aurais pu venir avec la capeline sur la tête que ça aurait rien changé. Le girafon, pas besoin d'avoir fait maths sup maths spé pour savoir ce qu'il pense de nous. Partout où il pose ses petits yeux qui disent merde à l'autre, il juge. Juge la gare, le sapin rose dans la Clio, juge le quartier, la maison, mon Bouddha doré dans l'entrée, les petites statues de bulldog français assorties aux chiens, le plaid en moumoute sur le canapé, ce qu'on regarde à la télé. Il juge sans le dire, mais je le sens, me sort. C'était très bon, madame, merci beaucoup pour ce repas. Moi, j'entends. Ah, super, c'est ça qu'on mange chez les pouilleux. En plus, il s'acharne à me vouvoyer, le petit con, à m'appeler « Madame ». Vas-y, essaye de faire plus ringard. Je te prends 10 ans à chaque fois qu'il y lâche un « Madame » avec son air de Nadine de Rothschild qui contrôle comment j'ai mis les couverts sur la table. « Désolée, madame, j'ai le tutoiement difficile qui me dit. » Alors ça, c'en est un bon de problème de riche.
Des photos de nous trois, il y en a très peu. Mon père a développé au fil des ans un talent remarquable pour feinter l'objectif. Car ma mère le dépasse d'une demi-tête, mais pas question que ce soit immortalisé. Si par malheur un photographe insistant nous attrapait dans sa lentille, elle devait s'asseoir ou enlever ses chaussures. Ça se faisait sans un mot. Elle se courbait, docile, puis déchaussait ses talons, en enfilant quand même ce sourire de guerre qui laisse un peu voir ses gencives. L'image sur l'écran ne leur ressemble pas. On est à la plage. J'ai 10 ans, je me tiens au milieu, à ma place. Chacun a une main sur mon épaule et pour eux, rien de plus normal que de s'astreindre à ce genre de partage équitable de ma petite personne. Ce qui cloche, c'est tout le reste. Mon père sourit sous ses sourcils sombres. On voit à peine sa veine, celle qui part de la tempe pour s'échouer juste avant la nuque et qui cogne contre sa boîte crânienne lorsqu'il couve sa colère. Parfois, elle me revient en rêve, la veine, avec sa sérénade habituelle. Des mots d'amour démesurés qu'il répétait matin, midi et soir, comme un disque rayé. Il lui fallait me dire encore et encore tout ce qu'il ferait pour moi par amour. Et tout, c'est absolument tout. Se saigner, s'oublier, mourir même. Ou pire encore, rester avec ma mère. Des mots durs qui tranchent avec ses yeux tendres pour la fausse blonde qui surexpose la photo tirée des archives du bonheur familial. Elle nous surplombe et la tête un peu penchée vers le bas adresse à son mari un doux regard surligné de turquoise. Alors je zoome et dézoome peu convaincu. Mes parents, les vrais, sont des grenades dégoupillées. Est-ce la mise en abîme, la capture sur smartphone du tirage argentique qui leur donne cet air serein? Derrière mon cou, c'est même à croire que leurs auriculaires se cherchent. Il faut dire qu'on a toujours été plutôt heureux à la mer. C'était comme notre messe. Tous les dimanches, ma mère mettait le réveil pour arriver à l'heure des vieux. Je revois les têtes blanches et leurs corps bruns calés sur des chaises rayées. Ça cocotte un peu, ça claque des bises avec l'accent qui chante. Un instant pour prendre des nouvelles, puis c'est le silence des dures besognes. Interrompu de temps en temps par une voiture qui passe sur la corniche ou le smash d'un volleyeur qui fait trembler le sable des Catalans. La plage, quand on la regarde bien, on sent que c'est aux vieux qu'elle appartient. Ils la prêteront plus tard, quand ils auront fini de rôtir dans le calme matinal, aux familles, aux bandes adolescentes bourrées de sébum et de phéromones, et même aux touristes qui, peu importe d'où ils viennent, sont toujours des Parisiens. Mais pas à 7 heures. À 7 heures, tous les autres dorment, fada qu'ils sont, et laissent au lève-tôt le meilleur. En sortant de la voiture, mon père claquait fort la portière. Il râlait de devoir toujours porter tous ses sacs à paillettes qui, pour ne rien arranger, pesaient un âne mort. Ma mère, quant à elle, sautillait presque. La plage, c'était son habitat naturel. Elle connaissait la plupart des femmes âgées sur les fauteuils pliables et leur lançait des baisers en l'air. C'était sa clique, ses mamies qui sentaient l'huile bronzante et me tendaient leurs bras saturés de bracelets. « Fais-moi voir ma beauté, tourne un peu ma nine, montre-moi ses fesses !» avant de complimenter mes parents à l'autre bout de la plage pour ses fesses. « Oh là là, cette petite, mais qu'est-ce qu'elle est belle dans ce bikini rose !» La responsable de l'achat haussait les épaules, l'air de dire « je sais pas d'où elle sort » tout en précisant que le maillot c'était du pareil au même avec le prix en francs. Sur les serviettes éponges infestées de sable, mes parents s'endormaient toujours très vite, à peine plus d'une heure après s'être levés. J'aimais les regarder somnoler, mâchoire décrispée. Sa veine à lui dégonflée, elle les yeux plissés et un filet de bave au coin de sa bouche. Rien à voir avec une minute plus tôt quand ma mère avait enlevé le haut de son maillot et mon père fulminait à la vue de ses seins que tout le monde allait voir. Il lui avait attrapé le poignet et elle s'était dégagée volatile, prête à lui hurler une réplique qui aurait encore fait l'effet d'une bombe. Sauf qu'il avait gagné au jeu des regards. Elle s'était rhabillée. La paix des vieux était sauvée. on pouvait tous expirer comme eux, comme leur souffle se mêlant tranquille dans les effluves de tabac et de soleil noir. Puis le soleil se couche, ma mère est de profil, la clope au bout des lèvres qui fera dérailler sa voix déjà grave, son visage sans la ride du lion qui l'obsédera des années jusqu'au botox, ses seins qui tiennent seuls dans un triangle orange fluo, le tout face à la mère qu'elle interroge, perdue semble-t-il, dans son monologue intérieur. Elle sent mon regard sur elle, alors elle pivote, résolument joyeuse. « Demain on va faire les boutiques, Manine !» Demain, c'est un lundi de vacances scolaires. Elle travaille, elle, et puis même. Quand ma mère décide quelque chose, rien ne l'en empêche. Elle appelle Drin pour échanger les jours. Drin, sa copine depuis le CP à l'école de la Grognarde et avec qui elle est secrétaire à l'hôpital, au service psychiatrique. Rien ne l'empêche, même pas mon père qui crache sur la serviette d'à côté. T'en as pas assez, des fringues ? Non, jamais. Ma mère s'habille au superlatif. C'est très court, très rose, très pailleté, très décolleté, très échancré, très, très. Elle aime rajouter des couches et des brillances. Elle dit des petits gris-gris. Et aussi casser le style pour équilibrer. Ma mère est une funambule sur pilotis, oscillant entre mauvais goût et exploit artistique. Plus tard, quand je l'aurai fui avec une conviction sans faille, j'arpenterai les couloirs du centre Pompidou, dont le manteau de tuyaux multicolores lui aussi divise, en commentant des œuvres d'art moderne pour feindre un capital culturel, et je remarquerai pour moi-même que ces fresques vestimentaires auraient sans doute pu y être. Taille basse, string dentelle et veste léopard, œuvre sur peau qui sent la crème coco. Le lendemain, c'est donc les boutiques. Je m'assois comme toujours sur un de ces canapés posés près des cabines pour les maris qui attendent, profitant des multiples essayages pour lire. Mais dès qu'elle tire le rideau, je prends le rôle à cœur. J'enfile mes yeux d'homme, ma cravate, je suis la police des mœurs. Elle défile, tourne sur elle-même, fait valser les tissus. Elle y met un point d'honneur. Même quand c'est trop serré, elle examine ses fesses dans le miroir programmé pour amincir. Fait la moue, jette un sourcil inquisiteur dans ma direction. C'est mon moment. Si elle doute, alors c'est moi qui décide et c'est stratégique. J'ai une limite de cours, par exemple, au-delà de laquelle ça créera des ennuis. Je lui fais, mimant des ciseaux qui passent au-dessus de mes sourcils. Elle soupire, mais le jury a parlé, sa sentence est irrévocable. Allez hop, on se rhabille. Après quelques cabines et canapés, elle trouve la robe. Bustier dans une sorte de mousseline noire, donc sobre, elle précise, malgré les petites têtes de mort fluo qui l'enluminent. Mi-cuisse un peu évasée, j'estime qu'on évitera la crise. Le décor décolleté est pourvu d'un punch-up, mais rien qui ne se cache le temps de passer la porte avec par exemple son perfecto en faux cuir. Ou alors cette veste en jean rose qu'elle a achetée le mois dernier assortie au crâne. Je lui dis pour la veste. Elle m'embrasse sur le front, fière comme une papesse que je m'en souvienne. On finit toujours ces journées-là chez J, dans une petite boutique de la rue Sainte, avec en vitrine des mannequins dorés qui portent de longs chapelets en perles multicolores. Josiane, mais tout le monde l'appelle J, c'est la patronne. La mère de sa copine Karine, elle aussi de la Grognarde. Chez qui, plus jeune, elle se cachait pour pouvoir sortir entre filles. J'y faisais barrage quand mon père venait rôder. « Non, non, ici, il n'y a personne !» Elle mentait. Et il repartait à chaque fois sans broncher.
On va passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs,
tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des goudes est le plus fort, on va passer un dimanche au goudes. En famille, entre amis, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goudes. En famille, entre amis, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Du printemps au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chapelet partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous les fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au goudes. En famille, entre amis, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goudes. En famille, entre amis, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Eh bien, le ton est donné tout de suite, effectivement. C'est un plaisir à écouter,
c'est
ça.
C'est ça, c'est ça.
Donc, le personnage, c'est, on sent que le personnage vraiment haut en couleur et une sacrée personnalité, la Véro, hein, c'est ça, c'est
oui, c'est exactement ça. On peut dire la Véro. Mais c'est vrai qu'au début de la lecture, on est happé, justement, et c'est un petit peu l'effet que ça nous a fait. Là, on est happé par le style direct de l'écriture, parce qu'on est vite dans le vrai, dans le juste, et ça nous rend immédiatement les personnages proches et en fait très attachants. Et donc, Véro en est l'exemple le plus frappant.
Elle est ce qu'on appelle une cagole.
Oui, cagole, il faut préciser.
Alors oui, c'est bien sûr un mot familier marseillais, voilà. Principalement, c'est au début du XXe siècle, ça désignait une prostituée, une fille de petite vertu. Donc le terme reste péjoratif, parfois moqueur et même insultant selon le contexte. La cagole, c'est une femme qui affiche une féminité provocante, voire vulgaire, et qui se comporte de manière délurée et bruyante. Donc une personnalité forte et assumée, qui donne au personnage de Véro une verve qui, on l'a vu, est assez irrésistible.
Ouais.
On la voit, hein, en fait, tout dans ses robes voyantes.
Exactement, on imagine bien. Bon, on comprend immédiatement avec les souvenirs de Clara et la manière dont elle parle de sa mère que donc sa mère elle est trop tout en fait hein, et qu'il va être bien difficile de se construire et de s'émanciper avec ce modèle. Surtout que en plus, et on l'a vu aussi dans l'extrait, Véro elle ressent une forme de trahison. Elle a du mal à accepter l'éloignement de sa fille, aussi bien physiquement que socialement. Et on a vu aussi que ce sentiment, il est exacerbé par l'apparition de Raphaël,
le fameux girafon,
le petit parisien.
C'est ça.
Enfin, le petit con, en clair.
Voilà, exactement, on peut dire ça. On lui a fait faire le tour d'honneur au girafon. à se le trimballer dans tous les quartiers qui plaisent aux Parisiens. Les goudes, si authentiques, la corniche, qui en met plein les yeux, le vallon des offres, vraiment très mignon. Il en rajoutait des caisses avec sa ganache de touriste chinois qui sort du car, l'appareil photo autour du cou. Je te jure, un cliché ce minot. Bien sûr, mon flambeur de Napolitain a voulu se ruiner pour lui faire manger la bouillabaisse chez Michel. Histoire de lui faire croire qu'on peut se permettre. L'autre, il était là comme deux funesses dans le film avec Coluche. Petite bouche pincée et serviette sur les genoux. Vraiment très typique. Le poisson aurait été pourri qu'il n'aurait rien capté. Je veux pas faire ma Marseillaise, hein. Mais voilà, ça s'explique pas, je peux pas le sentir. Le chien non plus d'ailleurs. Et les chiens, ils savent. Vu sa tronche écrasée au canin, personne s'en inquiète. Même pas le girafon qui dit qu'il est mignon, qui se plie sa longue tige pour tenter des caresses. Sauf que sous la table avec la soupe de poisson à 70 balles tête, le petit molosse a décidé de lui mordre les mollets. Il a lâché un cri. Moi, j'ai caressé discrètement la bête. « C'est bien, mon pastis, bon chien !» Sur la chaise en face, le géniteur s'est enchaîné trois ricards sans desserrer les mâchoires. Ça me le met mal, cette histoire. Sa fille, avec un autre, loin, riche, mieux donc. Ça mouline dans sa tête d'Italien à l'ancienne. Elle reviendra plus, c'est sûr. Peut-être juste pour les vacances scolaires quand elle aura des enfants. Des enfants ? Ça se fait comment, les enfants ? Bah, pas par le Saint-Esprit. Ça lui fait des haut-le-cœurs de bouillabaisse hors de prix. Sa fille, mère de famille, avec une armée de petits cathos tout blancs de vivre à Paris. Sa fille qui en a déjà plus que pour l'autre. Alors imagine si elle enfante. Voilà, c'est fini. Elle te l'a enterré, le Napolitain. En même temps, fallait s'y attendre. Je l'avais prévenu à l'époque, mais il m'a envoyé paître. Ma fille fera des grandes études. Point barre. Ben voilà, mon grand, le résultat de tes ambitions, c'est le girafon. La première fois que quelqu'un m'a parlé de la faire monter à la capitale, c'était M. Cruchot, son prof de français en seconde A. Il m'a marqué ce traître. Déjà parce qu'il se curait pas très discrètement le nez dans la salle où il nous foutait pour la fameuse réunion des parents. Je suis arrivée devant le bureau, il a lâché en sortant son petit doigt de la narine. « Ah, c'est vous, sa mère ?» Les gens sont toujours surpris. Je mets ça sur le compte de la différence physique. Moi, grande et blonde, elle, petite et brune. Je réponds souvent comme là. J'ai même les cicatrices pour le prouver, monsieur. Car oui, césarienne, siège complet, cordon enroulé, elle voulait pas sortir la minotte. Madame, poussez, poussez. Ah non, finalement, on rembobine, surtout ne pas pousser. Vous pouvez pas la ravaler. J'ai raconté tout ça au prof qui avait rien demandé. Il se curait encore la narine, mais sa bouche se tordait un peu. Je le dégoûtais. Il s'était vu, ce con, avec l'auriculaire au fond du nasol. Bon, ne pas réagir, se tenir. Si j'allais à ces réunions, c'était pour qu'on me fasse gonfler les chevilles. Puis, c'est là qu'il me l'a dit, le truc. Il a pris un air gêné, comme s'il avait peur que je pense que ça venait de moi, ou que je l'empêche. Va savoir. Enfin, il a fait des plans sur la comète. Des trucs que j'avais jamais entendus, du genre normal sup, cagne, lettres modernes, Sciences Po. Avant de conclure avec le même ton que quand on explique à un mioche qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, « Pour votre fille, c'est à Paris que ça se passe, madame, vous comprenez ?» Je comprenais, ouais, peut-être que je n'imaginais pas exactement que madame allait finir prof à Sciences Po en parallèle de son doctorat et nous ramener une grande tige à particules. Mais je sentais bien qu'à force de lui mettre dans la tête que c'était un génie, en plus de me la rendre insupportable, ils allaient me la faire fuir, ces cons. En sortant du restaurant, on s'arrête pour fumer une clope face aux Catalans. La petite est appuyée sur la rambarde et scrute la plage. Elle a sorti son appareil à elle, un gros machin qui nous a coûté un bras. Elle le fixe sur un couple de vieux qui cuisent dans un coin et tentent de communiquer avec le grand cul pincé qui lui sert de mec. C'est joli, hein ? Avec ses yeux de merlan frit. « Oui, très. » Et puis il chuchote, en repoussant la main qu'elle lui a donnée. « Tes parents ?» Comme si nous, ses parents mal élevés, on allait être traumatisés qu'elle lui tienne la main. Il n'est pas affectueux avec elle. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas non plus très à l'aise avec son corps en général. Sauf que c'est pas que le corps, c'est aussi la voix, le regard. Je vais le dire, voilà. Il n'a pas l'air amoureux. Elle, par contre, je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle te le regarde avec cet air comme si c'était James Bond, alors qu'il a un vilain strabisme et un nez qui va qu'à pierniner. Et puis cette bouche à manger des biscuits secs, une vraie bouche de mauvaise, je te parie qu'il a la même que sa mère. Mais ma fille, pendue à ses lèvres, elle le bade comme elle a jamais badé personne, puisque d'habitude elle est mieux que tout le monde. Hoche la tête pendant qu'il nous raconte ses théories à la con sur les gilets jaunes alors qu'il a jamais fait un plein. Je suis sûre qu'il a même pas le permis. Comme un bon parisien. Peut-être que c'est parce qu'il est plus vieux. Pas de beaucoup. Comme le napolitain et moi quand j'y pense. Il a 30 ans. Il est mature. Pas comme les autres, tu comprends. Elle a à la bouche que la soirée surprise qu'elle lui a organisée pour son anniversaire avec ses amis qui sont brillantissimes. Il me l'a marabouté, la mioche. À la gare, le girafon marche devant avec les valises. Le napolitain lâche dans sa barbe. « Ça va vite avec ses grandes jambes !» Je pouffe discrètement. La petite nous regarde en haussant les sourcils. Elle a entendu, c'est sûr. Alors c'est le moment où elle décide, mon tyran, pousse en haut ou en bas, mort ou vif. Finalement, elle rit, secoue la tête. « Vous êtes bête !» Puis elle me prend la main et me tire. Et alors oui, j'ai mis des talons. On sait jamais, j'allais pas sortir négligée. Le napolitain me pousse derrière, main sur les fesses, qui presse comme quand tu peux être sûr qu'après, il voudra du sexe. Il est heureux, et moi aussi, pendant qu'elle s'esclaffe en zigzagant entre les bagages et les gens. Cargo goulourd, dégagez le passage. L'autre tige en face, il est vanille fraise. Pareil que quand on est monté à pied jusqu'à la bonne mer et que j'ai cru qu'il allait nous faire le malaise. Voie J, direction Paris-Gare de Lyon, 15h56. Elle lui attrape le bras et nous refait le coup de s'enfuir. Et nous, on peut toujours pas s'empêcher. On fait des coucous et des cœurs, comme si elle allait se retourner.
Il y a cette photo de moi portant mon pantalon rouge adoré, posté sous le logo de Sciences Po. Avec la même tête que ces touristes qui prétendent tenir au bout d'un doigt la pyramide du Louvre. Je venais d'être acceptée. J'allais fuir. J'étais fière. On devine que mon père l'a prise car il n'a jamais su cadrer et des Santiago en faux piton flottent en bas à gauche du cliché. Les pieds de ma mère, sans grande surprise. Rester dans le cadre n'a jamais été son fort. Qu'est-ce que tu regardes avec cet air ? Je sursaute légèrement quand Raphaël apparaît dans l'embrasure de la porte, brosse à dents en bouche, chemise déboutonnée sur ses jambes nues, des poils blonds qu'il aurait pu avoir peignés. Je m'enroule un peu dans sa couette en percale de coton. Rien, juste l'iPhone qui fait remonter des souvenirs. Toi toute dodue, moi toute cagole. Mate le t-shirt Guess. Il attrape le smartphone, sourit, remonte la série mise en avant par le téléphone jusqu'à celle de la plage avec mes parents. Je détecte à son froncement de sourcils qu'il peine autant que moi à les reconnaître, mais le garde pour lui. « T'as aucune autre photo d'avant Paris ?» il demande depuis la salle de bain où il est allé cracher son dentifrice. Je fouille la bibliothèque immatérielle. « Non, rien. » « Ça te ressemble pas. Faut croire qu'avant je mitraillais moins. » La réponse doit le satisfaire car par la porte ne me parviennent plus que le bruit et la buée de la douche brûlante sous laquelle il s'est glissé. Pourtant, je mens. Dans mes souvenirs, même les plus anciens, je suis toujours flanquée d'un appareil photo. Un Kodak jetable entouré d'une coque en plastique transparente pour aller sous l'eau, dont je remplissais la pellicule de bouts de pieds flous et de nuées de sable en lévitation. Mes parents les faisaient développer et tapissaient les murs de mes œuvres abstraites. C'était mieux que les autres mioches et leurs dessins moches, d'après ma mère. Ensuite, il y eut le numérique rose offert par mon père un soir en rentrant du travail, qui immortalisa les poses langoureuses de toute la clique maternelle. Des morceaux de peau, de tissu, de paillettes. Je n'avais toujours pas appris à cadrer, mais c'était le concept. Puis, mon réflexe. Des clichés un peu plus recherchés, des tentatives de paysages, beaucoup de portraits de ces femmes flamboyantes qui étaient mes seuls modèles. J'ai capturé dans la lentille de ces appareils des milliers de moments qui sentaient le sable et la crème solaire. Et je me souviens tout aussi nettement de les avoir enregistrés un à un sur mon téléphone avant de partir à Paris que de la nuit passée à tout supprimer à cause de la plaisanterie blessante qu'un Louis quelque chose avait faite sur mes origines modestes. « Et ils font quoi, tes parents ?» Ils aiment bien demander ça, là-haut, comme dirait ma mère. Jamais je n'ose répondre que mon père est taxi et qu'elle est secrétaire, ascendant cagole. En supprimant les photos, je voulais me débarrasser des preuves de mon imposture. J'en avais ma claque qu'elle me colle au corps comme un mauvais Cheap Monday. Qu'elle s'accroche à ma gorge, serre mon estomac, qu'elle me rappelle par mille trahisons physiologiques dans les salles pleines, les dîners placés et toutes les pièces au plafond moulurées, ou au milieu de ces gens qui s'enquièrent innocemment de mon pédigré, me demandent sans mot dire de briller d'intelligence pour compenser son absence, finissant inlassablement par remarquer en souriant et ce malgré tous mes efforts, cet accent qui traîne sur mes hauts comme une touche d'exotisme mignonne. J'en avais marre de me la traîner comme des auréoles sous les bras ou un bout de salade entre les dents, cette origine à peine moyenne, qu'un politique plus habile aurait su faire passer pour vaguement ouvrière, ce genre de déviance écrite sur le corps qu'on excuse en baissant les yeux parce que, quand même, elle gêne un peu. Rien ne s'efface aussi facilement que la mémoire d'un iPhone. Après mon nettoyage digital, j'ai encore passé quelques soirées à pleurer à la suite de remarques lancées par un quelconque héritier pour amuser l'assemblée. « Et comment elle va, la cagole ?» La cagole, c'était moi. Ils ne sauraient pas distinguer une J d'une Véro. Pour eux, la femme, plus accent, plus Marseille, ça fait cagole. Une tape sur mon épaule au milieu des rires. On t'aime bien, tu sais. Je me fondais dans le banc en bois de l'amphithéâtre. Le constat était sans appel et ce n'était pas une histoire de kilomètres. Partout où j'irais, inéluctablement, ma mère allait me suivre. Alors j'ai travaillé. En observant bien, tous les codes sont décryptables et avec ce qu'il faut de motivation, imitables. Il a fallu me taire d'abord, beaucoup, puis copier les expressions, singer les mouvements, voler les avis et finir par y croire, finir par prendre mes feintes pour une appartenance et par faire payer à mon retour au bercail ceux qui rappelaient ma méprise. Je ne corrige plus, mais lève les yeux au ciel à chaque faute de français, chaque nouveau mot marseillais que mes parents m'apprennent pendant le dîner. Les bruits de mastication, la télé allumée, les injures qui fusent sur fond de JT, je leur dis que c'est une question de volonté. Et je n'ai pas honte, absolument pas honte, de leur ordonner de se tenir à un idéal qui n'est pas le leur pour ne pas trahir mon propre reflet dans le miroir.
Paraît que Marseille s'est gentrifiée. La petite racontait ça à table la dernière fois, flanquée de son girafon sur la chaise à côté. Ça veut dire, pour les incultes comme moi, les riches remplaceront les pauvres. Ici, c'est les Parisiens qui font grimper les prix des maisons en achetant aux Roucas et à Vauban, ou les touristes qui brunchent là où Jacquemus leur a dit sur son Instagram. Très joli, c'est ça qu'a ce Jacquemus, soit dit en passant. Enfin, ma mioche dégaine son argumentaire avec son regard de loin, de sociologue, comme si c'était pas sa ville, juste un sujet comme un autre. Le napolitain fait genre qu'il comprend quelque chose à la conversation. C'est vrai que la dernière fois, je roulais en ville, partout j'ai vu des affiches pour des brunchs. Tu as vu ça où, toi, des brunchs? Ils nous font chier, ces Parisiens, on se croirait plus chez nous avec leurs idées à la con. La minote queen, avant de lui sortir avec son air de prof. Le problème de la gentrification, c'est pas juste la perte d'authenticité, c'est qu'on déloge des populations entières, qu'on isole encore plus, qu'on marginalise. Alors toi, tu vois des gens qui brunchent et ça t'irrite, mais tu peux toujours te les payer, alors que les gens qui vivent là peuvent simplement plus manger dans le quartier. Ça a un coût psychosocial énorme, cette histoire. Psychosocial. Elle aime utiliser des mots plus grands qu'elle pour qu'on se sente tout petit. Son père hausse les épaules, rien compris. L'autre, elle a son sourire de la victoire. Ma fille est une psychopathe. Le docteur Martin à l'hôpital dirait « Véronique, ne dites pas psychopathe à la légère, vous savez bien que ça contribue à accentuer la stigmatisation des maladies mentales. » Il parle comme ma fille, le docteur Martin. « Mais je le dis avec amour, docteur. » C'est juste qu'elle suce le savoir comme un vampire, ma chère de ma chère, et qu'elle prend du plaisir à nous faire savoir qu'elle sait ce qu'on ne sait pas, comme s'il ne fallait pas juste qu'elle se sente au-dessus, mais aussi qu'elle nous le montre et qu'elle nous enfonce. S'il y a un autre mot pour ça, vous me le dites, hein. Elle n'a pas mauvais fond, la gamine. Elle a toujours eu l'air de souffrir plus que les autres. À la maternelle, elle se faisait mordre entre les doigts par les gosses qui la comprenaient pas. Elle parlait trop bien pour eux. Sans déconner. Elle. S'il te plaît, tu peux me prêter ce jouet ? Merci. Réponse des minots, il la mordait. Puis toute la primaire à la récré, elle demandait de jouer. Genre à la corde ou au foot. Elle. Non, merci, c'est toutefois gentil de proposer. J'exagère à peine. Évidemment, ça inquiétait les profs. Vaut mieux ne pas lui faire sauter de classe pour que ça n'empire pas. Est-ce que c'est pareil à la maison ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la sphère familiale qui pourrait expliquer qu'elle soit tellement en retrait ? Moi, je répondais « Bah non, pas plus qu'ailleurs, madame. Merci, au revoir. » Et je mentais pas. À la maison, c'était vraiment pas son genre de rester muette à lire des livres. Elle était toujours au milieu, à prendre parti avec ses grandes théories. C'est toujours comme ça avec papa. Au début, tu lui donnes raison, puis il se donne tort. 8 ans, ma petite philosophe. Quand il dormait sur le canapé, elle venait se glisser dans mon lit. « Tu sais, maman, il m'a dit qu'il était vraiment désolé. » Le soir, avant de rentrer, si je regardais par la fenêtre, je pouvais le voir tourner en rond et faire des grands gestes pendant qu'elle l'écoutait en hochant la tête. Messagère, avocate, psy, certainement pas en retrait. Puis toujours ses humeurs, à pleurer pour un oui, pour un non, à crier, à claquer la porte. Pas le genre crise dans les supermarchés, les gosses qui se roulent par terre et finissent dans « tellement vrai ». Heureusement, c'était juste quand on était toutes les deux. Elle me regardait dans les yeux et elle se mordait le bras ou elle se frappait la cuisse avec le poing. Mais fort, ça durait 3-4 secondes. Alors j'étais obligée de crier « arrête, espèce de folle, pourquoi tu veux te faire mal ?»« Va expliquer les bleus. » Une seule fois, j'ai suivi les conseils de Dolto. Laisser faire, la rendre responsable de ses émotions. Elle s'est mordue au sang, la minotte.
San bonani ni jane
si nasi apilala
ah mula
Eh bien, on sent le fossé qui se creuse entre les deux femmes et on mesure à quel point les tempéraments sont différents et comment le changement de classe sociale peut être difficile.
Oui, c'est exactement ça. Hein. On voit bien que le décalage culturel au sein d'une même famille, il entraîne notamment des malentendus, de la distance.
De la distance,
ouais, oui, beaucoup de distance. Hein. De l'agacement même, hein, de l'une ou de l'autre, on le sent aussi. Et puis, voire même de l'incompréhension. Donc, les deux femmes n'ont effectivement pas le même langage, ça on l'a remarqué. Et comme dit l'autrice, elles n'ont pas la même grammaire. J'ai bien aimé l'expression. Alors, bien sûr, pour Clara, issue de ce milieu modeste, il va être très difficile de s'extirper des traditions, des liens et des secrets familiaux. En fait, elle est tiraillée entre la loyauté qu'elle doit à sa famille et l'envie de s'émanciper. Évidemment, l'envie de se détacher et notamment du modèle féminin transmis par Véro. En fait, s'émanciper sans trahir. Et ça, c'est difficile. On voit bien que la relation entre la mère et la fille est complexe, car elle est chargée, de non-dits, de souffrances. Néanmoins, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être aussi pour ça que les sentiments sont très forts. Mmh. Et les liens sont véritables, parce que Véro, finalement, elle est là. Peut-être trop et certainement de manière maladroite, mais en tout cas, elle est là.
Elle est là et elle monte.
Elle est là.
Elle monte, effectivement.
Quand j'ai dit au Napolitain que je montais à Paris, ça l'a rendu à peine jaloux. Il n'a pas caché ma valise ou les clés de ma voiture, ni appelé toutes mes copines. Si ça peut te rassurer, il m'a fait, en grognant, m'a dit de prendre le chien. Et lui, il pouvait pas se le garder un peu, le chien? Mais ça fera plaisir à la petite, non? C'était vrai. Alors je l'ai pris. Sur le trajet, le canin s'est fait draguer par des gamines et moi par le chef de bord. Oh, rien de méchant. Il m'a dit que ça fait du bien de voir un sourire comme ça. Un beau sourire comme ça. Il avait quoi, 55 ans, qu'en fait 60. Les boutons de la chemise qui tirent un peu, 3 poils sur le caillou, mais qui s'égosillent à les coiffer. J'ai fini par m'éloigner parce que faut pas pousser. Il m'a lâché. Changez rien, mademoiselle. Dans la gare, ma mioche me repère facilement. Puisqu'ici, tout est gris. Le temps, les gens aussi. Moi, j'ai ma veste orange en nubuck et mes Santiago perlés. Faut bien leur ramener un peu de soleil aux Parisiens. Le chien m'arrache le bras en la voyant. C'est la fête. Des fois, je me demande ce qui se passe dans sa petite tête. Maman, maman, fête, poteau, pisse de chien, maman, maman, oh amour, fête. Sa maman, c'est pas moi, hein, c'est elle. Et avec son air d'être en hypoglycémie, la chair de ma chair, transparente, du violet autour des yeux qui n'est pas une nouvelle ombre à paupières. Ah, ça lui a jamais réussi l'hiver. N'empêche qu'elle me tourne le ventre avec sa dégaine. Je comprends pas cette ville. Les gens avancent comme avec une alarme dans la tête, style l'alarme du premier mercredi du mois. 1-2, 1-2, des fous. Ça marche militaire sur le quai qui pue la pisse, ça te bouscule, rien à foutre. Tant que j'arrive le premier dans l'escalator et puis dans le métro, s'il faut pousser une vieille, alors là, la porte va fermer, la sonnerie qui hurle, c'est bouge-toi ou crève. Le prochain est dans quoi? 3 minutes? Ah ben c'est pas possible, trop long, 3 minutes. Le temps de réfléchir à la vie et de te rendre compte que t'as pas vu la lumière depuis un millénaire, que ton job de chief officer de mes couilles, personne n'en a rien à foutre et que tu serais peut-être mieux sur les rails ou avec des chèvres. Tout sauf ici, en fait. Ma fille nous guide avec pastis dans ses sous-sols de dépressifs et finit par nous ramener dans son studio à peine habité. Il est sombre, humide et bas de plafond, pour 750 euros par mois à Saint-Germain-des-Prés. Ça lui plaît. Je lui ai acheté des trucs tupperware pour cuisiner au micro-ondes, des rangements faits exprès pour les petits espaces. À part ça, pas de déco, hein, ni les millions de photos qu'elle prend. Juste des gros livres partout et de la poussière sur les plinthes. Dans le frigo, rien d'autre que du beurre, des compotes et du fromage râpé. Un appel à l'aide, cet appartement. Mais je me mords les lèvres, parce que si je l'ouvre, elle dira que c'est comme d'habitude, que je critique tout. Et cette fois, j'aimerais bien qu'on passe au moins une journée sans se charcler. Alors je me fais petite. J'annonce comme si de rien n'était. « Tiens, je vais aller faire des courses, tu sais que j'adore le Monoprix. » Je lui remplis le frigo des choses qu'elle aime. Elle dit pas merci, hein, mais au moins elle mange. Et ça calme un peu mon estomac qu'elle mange. Depuis petite, elle nous fait des frayeurs. Elle arrête de manger, comme ça, pour un rien. Elle n'est pas anorexique, hein, apparemment. Parce que oui, je lui demande. Elle est triste. Mais triste de quoi? C'est pas. Mais elle n'a pas faim. Pas faim, pas sommeil, pas envie de sortir, ni de voir les copains. L'école, c'est nul, j'ai pas dormi, on peut dire que je suis malade, et puis j'ai la tête qui tourne, j'ai mal au ventre. S'il te plaît, maman, juste pour cette fois. Elle reste dans sa chambre avec ses écouteurs qui lui niquent les oreilles pendant des jours. Moi, j'essaie de l'amadouer avec du Nutella. Va savoir pourquoi cette petite a tout le temps faim pour du Nutella, même quand ça va vraiment mal. Bon, j'en ai pas mis dans ses gnocchis ce soir, pourtant elle les picore. Me raconte que la thèse avance pas trop, que je peux pas comprendre bien sûr, mais que c'est dur d'être seule face à une page blanche. Que le seul truc qu'elle aime encore à Sciences Po, c'est quand elle croise Raphaël. Son Raphaël. Dans sa tête, c'est une superstar, le mec. Tout le monde l'adule, tout le monde voudrait être elle. Tout le monde voudrait lui piquer aussi. Et j'ai envie de lui dire, ma puce, on se parle d'une grande tige avec un œil qui dit vaguement merde à l'autre, quand même. Pourtant, je me tais, hein. Je fais la poussière sur les plaintes et sur les tupperwares. Je demande, mais à Sciences Po, il y a aussi ton copain Lucas, non? Il est beau celui-là, moi je l'aime bien. Elle me fait les gros yeux, maman. Ça la fait un peu rire quand même. Je le vois, son bout de sourire qui se redresse, puis qui retombe. Elle fixe le fond de son assiette. Lucas, tu sais, c'est pas le plus grand fan de Raphaël. Politiquement, apparemment, entre les deux, ça fait des étincelles. Elle part sur ses grands chevaux à m'expliquer leur divergence. Et j'ai beau sentir que ça lui fait de la peine, je peux pas m'empêcher de décrocher. Alors je prends des nouvelles de ses copines. Comment elle va, là, celle que j'adore? Tu sais, la belle au bois dormant, là. Mais oui, tu sais, celle qui dormait jusqu'à pas d'heure quand elle venait à la maison. Elle plisse ses deux yeux. Marion? Je hoche la tête et ça lui fait ranger son sourire qu'elle avait quand elle parlait du girafon. Elle l'a un peu perdu de vue, Marion. Elle a un gros job dans une start-up et plus beaucoup de temps pour elle, apparemment. Tu sais, avec le travail, les gens font le tri. Ma fille a été triée. Mais c'est pas grave, maman, c'est la vie. Elle a Pastis qu'elle caresse comme si sa vie en dépendait. Et puis elle a Raphaël. Me voilà rassurée.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de un, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Brille comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent.
Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course. Cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma.
Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au fol, viser le drame à partir comme nous, ils étaient tellement à fin de course. Cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise.
Mais ça s'est crémué la queue. Ils ont le mort parce qu'on va briller plus fort qu'eux. J'ai dévité des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complaît dans le lamentable. S'ils nous balancent des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdue et retrouvée dans les bras de mes douces. À penser autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse.
Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Moïse et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma.
Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Moïse et Thelma. Fin de course, coup de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Pour la main des hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique, écran de fumée, tête dans la crasse.
Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses.
Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol, gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
Bon, on devine un peu la fragilité de la petite quand même, hein. Un petit malaise.
De la minote.
La minote, hein.
La minote, c'est ça.
Pas très à l'aise.
Non, pas toujours. Hein? D'autant plus qu'elle va être malmenée par sa relation avec Raphaël. Bon, on n'a pas tout dévoilé. Hein. Il y a encore plein de choses à découvrir dans ce...
Salaud girafon.
C'est ça, exactement. Exactement.
Non, puis il y a la ville de Marseille aussi dans le...
Dans le roman.
Dans le roman.
Qui a un rôle important. Ouais.
Alors, tout à fait. Elle a... un rôle vraiment important parce que c'est pas seulement un décor, hein, on a vraiment l'impression que c'est une personne presque vivante, hein, on a de toute façon à l'esprit les bruits, les odeurs, la chaleur. Elle influence bien sûr le langage, ça l'accent est, qu'on devine, hein, on a presque envie de le prendre par moment dans la lecture. Elle influe aussi le comportement des personnages, évidemment, leurs valeurs, leurs traditions, leur vision du monde. En fait, la ville, elle structure l'histoire. Elle en est le cadre, mais aussi le moteur, mais également le symbole. Et sans Marseille, on se doute bien que le roman ne serait pas du tout le même, en fait. Donc juste un petit extrait pour illustrer ce qu'on vient de dire sur Marseille. Et là, c'est Véro qui parle. Elle reprend son discours sur la gentrification que quand elle sent bien qu'elle a toute notre attention. Vous voyez bien, non, que Marseille change. J'ose un non. Pour moi ici, c'est toujours pareil. La même énergie crade, les gens énervés par le Mistral et tout le monde au même endroit. Les pauvres dans leur tour avec les paraboles pour capter les chaînes du bled. Les riches dans leur villa sur la corniche ou en bas de la bonne mer. Marseille, il n'y a pas grand monde pour la comprendre. Un peu comme moi. Et je fais un clin d'œil au girafon, parce qu'il m'aime autant que je l'aime, ça se sent. C'est une copine, ma ville. Disons, une belle brune mate sur pilotis qui danse le mia dans un bar du port depuis les années 90. Elle se déhanche les yeux fermés, maquillée comme une voiture volée. Elle fait jaser. Ils disent tous qu'elle est trop sale quand elle empeste les poubelles que les cantonniers veulent plus ramasser en été. Trop dangereuse entre les balles perdues des calages dans les quartiers. Trop vulgaire quand ça s'empègue au bar, que ça hurle en voiture ou dans les virages qu'ici, on craint des guns. Et les petits Parisiens qui s'amassent à Malmousque avant d'aller boire du vin orange au cours Julien ont même pas gratté la surface. Ils croient la connaître, mais d'elle, ils auront jamais rien d'autre que la carte postale.
Très bien. Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Ça donne très envie de lire.
Exactement.
Hein? Tout à fait.
On comprend mieux maintenant le double sens dans le titre, puisque, ah oui, la bonne mère, qui est Notre-Dame de la Garde au-dessus du port, évidemment, mais aussi la bonne Véro.
Hein? C'est ça, ben oui, parce qu'on a bien vu que le roman, il est porté, bon, pas seulement, mais principalement quand même par l'idée de la maternité. Et il pose aussi la question de c'est quoi être une bonne mère?
Oui, et si on revient à la ville de Marseille, on imagine que l'autrice doit la connaître bien.
Évidemment, elle est marseillaise. Ben elle a quitté sa ville natale pour étudier à Sciences Po. Tiens, coïncidence, à Paris. Et l'idée de son roman, au départ, c'est d'écrire principalement autour du personnage de Clara. Mais elle explique que le personnage de Véro s'est pratiquement imposé à elle, qu'il a pris toute la place et a modifié la forme du roman.
Et on remarque bien sûr des similitudes entre l'autrice et l'étudiante du roman. Et alors, est-ce que Clara, c'est Mathilda?
Ah, effectivement, la question se pose, hein, mais pas du tout. L'autrice s'en défend. Elle insiste sur le fait que ce sont bien des personnages de fiction. Alors évidemment, inspirés de sa propre histoire. Mais elle dit qu'elle a surtout voulu raconter une histoire qui est celle de tas de familles dysfonctionnelles et à l'intérieur desquelles on trouve néanmoins beaucoup d'amour. Donc moi, j'encourage vivement les auditeurs à lire ce livre parce qu'il est profond, fort, souvent drôle, émouvant. En tout cas, il ne nous laisse pas indifférents. Et en plus, la première de couverture est pétillante de couleurs et de soleil. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas trop radiophonique, mais raison de plus pour le découvrir en librairie ou dans votre bibliothèque.
Tout à fait. Je pense à un truc, c'est quelque chose d'un peu plus... Ce n'est pas forcément lié à Marseille. J'imagine que au siècle dernier, il y a des tas de fils de paysans qui ont fait des études, qui ont dû se retrouver un petit peu dans les mêmes situations.
Tu prends Marie-Hélène Lafont. Oui. Une autrice qui a dû changer complètement de milieu puisqu'elle est normalienne et qu'elle venait elle est fille de paysans d'Auvergne. Hein.
Ouais.
Oui, on mesure ce que ça induit en fait dans les relations familiales en fait.
Tout à fait.
Voilà.
Bien, tu nous rappelles les références du roman.
Alors, La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo aux éditions L'Iconoclaste.
Très bien. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ce superbe roman. Et puis, nous vous disons la semaine prochaine.
Voilà.
Au revoir, Catherine. Voilà. Au revoir, Magali.
Au revoir.
À bientôt, tout le monde.
À bientôt.
À bientôt.